Une fille et trois garçons. La fille, c'est Angèle Châtelier.
Bonjour.
Bonjour Angèle. Et les garçons, Nicolas Caro, Thierry Geffrotin et moi-même.
Bonjour, bonjour.
Messieurs, je vous souhaite la
bonjour
bienvenue
à ce
micro. On commence avec Mademoiselle Angèle. Voilà son premier album solo depuis 11 ans. Et vous avez donc écouté pour nous, en avant-première, Angèle Châtelier, les nouvelles chansons d'Alain Souchon.
I'm 50s, c'est le nom de son nouveau disque et il est terriblement poétique, onctueux, à l'image de celui qui a la soif d'idéal. C'est puissant, hein, comme Alain Souchon arrive à toucher toutes les générations. Lors de notre rencontre, il m'a parlé de ses enfants qui ont une quarantaine d'années et qui écoutent du rap. Alors lui, il n'en est pas forcément fan, mais il reconnaît que c'est de la chanson française, un peu comme lui, dit-il.
Et puis on voyage aussi, hein, d'ailleurs.
On fait même un retour en arrière de quelques décennies, dans les années 50. Lui, il y était et il nous le raconte. I'm 50s.
I'm 50s. C'est l'époque où j'ai découvert le monde et où donc j'ai découvert qu'il était comme ça, qu'il y avait la guerre en Algérie, qu'il y avait Jeanne Moreau qui avait une bouche extraordinaire et que quand elle était interviewée, elle disait que des choses intelligentes.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola.
Que Jean Gabin était extraordinaire, qu'il ne faisait rien et qu'en faisant rien, il faisait passer 1000 sentiments. Le monde était lent et on avait besoin de vitesse. On avait envie de vitesse, de voitures, de fusées, de Tintin nous dessiner des fusées. On avait envie de ça.
À Lille, sur la Grand Place.
Alain Souchon a vraiment beaucoup d'humour, il a un regard vraiment malicieux. Dans ses textes, il a toujours les mots justes. C'est pour ça qu'Am 50s s'écoute comme on regarderait un album photo avec de la nostalgie, mais ça peut être aussi un sentiment très heureux, la nostalgie.
Et en plus, il chante la Grand Place de Lille,
oui.
Donc c'est formidable. Vous savez que je suis lillois, Angèle Châtelier. Monsieur Souchon, donc Am 50s, quant à vous, Nicolas Caro, ce matin, vous commencez les cadeaux de Noël version papier. Voilà, ça sent le sapin, hein, déjà, en octobre.
Mais oui, parce que j'ai reçu ça, Harry Potter, la coupe de feu. Alors, le livre en lui-même, c'est
très
pas nouveau,
livre.
Mais en revanche, regardez ça. Grand format illustré, c'est chez Gallimard, l'illustrateur s'appelle Jim Kay, la coupe de feu. C'est le quatrième tome entre le prisonnier d'Azkaban et l'ordre du phénix. C'est donc la quatrième année à Poudlard, l'école des sorciers, et c'est l'épisode du tournoi, vous savez, les trois sorciers, une compétition de magie, vont s'affronter les élèves de l'académie de magie Beaubaton et ceux de Durmstrang. C'est la coupe de feu qui choisit les champions de chaque école, c'est un objet magique qui sort un nom, et la coupe de feu choisit Harry Potter, qui n'a pourtant pas l'âge requis pour participer. Mais si la coupe de feu le dit, on est obligé. Pas sûr qu'il ait le niveau, il y a quand même trois épreuves pour Harry et les autres participants. Récupérer un œuf d'or gardé par un dragon, il faut repêcher quelqu'un au fond d'un lac, et ensuite un labyrinthe vraiment très très compliqué. On retrouve aussi Voldemort, bien sûr.
Voldemort, c'est mon préféré. C'est la version intégrale ou abrégée?
Intégrale,
hein, il manque rien. Hein.
C'est pas mal d'ailleurs pour le lire à ses enfants, les illustrations sont vraiment très très belles. Il y a tout évidemment, dragon, personnage, mais ce n'est pas à chaque page non plus, ça j'aime bien. Sinon ça perturbe un peu la lecture. Et puis parfois, il y a une double page, comme celle-ci, celle que je vous ai montrée, regardez. C'est le carrosse tiré par quatre chevaux ailés qui passe au-dessus de la forêt. C'est magnifique.
Absolument. Et dites-moi, tant d'années après, est-ce que la folie Harry Potter se poursuit?
C'est complètement dingue, je trouve. Le phénomène ne s'éteint pas du tout. Ça date quand même de 1997, le premier tome. Harry Potter à l'école des sorciers, il y a 22 ans. La coupe
Angèle,
de feu,
vous aviez un
c'est
an, non?
J'étais énorme, j'étais
Angèle. Ça veut dire que les ados qui l'ont lu à l'époque, à 14 ans par exemple, commencent à pouvoir le lire à leurs propres enfants. Et puis je rappelle quelques chiffres, parce que c'est toujours impressionnant. J.K. Rowling a publié 7 romans de la saga. Ils ont été traduits en 80 langues, 500 millions d'exemplaires vendus, 8 adaptations au cinéma, les Moldus, Dumbledore, Voldemort sont quasiment devenus des noms communs. Il y a eu des dérivés avec le Quidditch, le sport d'Harry Potter, une sorte de hockey comme ça sur balai
volant.
Et surtout, tout le monde est d'accord avec Harry Potter. C'est de la littérature, certes, plutôt pour enfants, mais qui peut se lire à n'importe quel âge. C'est bien écrit, c'est intelligent, c'est drôle et effrayant, initiatique. Ça n'évite aucun sujet, ni l'amour, ni la mort.
Et en version illustrée, coffret grand format maintenant pour La Coupe de Feu. C'est vraiment un très très beau livre, mais qui coûte le prix d'un beau livre.
Eh bien, 45 euros quand même.
Bah oui, mais c'est pour Noël.
C'est pour Noël.
Voilà. Bah alors voilà, vous êtes pardonné, Nicolas Carreau. Peut-être un petit peu moins cher les deux bouquins qu'a apporté ce matin en studio Thierry Geffrotin, consacrés au même sujet, l'Opéra de Paris. Vous savez, Thierry, c'est la musique classique, alors même avec les livres, il retombe sur ses pieds. À tout de suite pour la suite du Tour de Table culturel. On retourne dans ce tour de table culturelle du samedi matin avec Thierry Geffrotin. Thierry, vous avez donc apporté deux beaux livres qui paraissent en même temps et qui traitent du même sujet, l'Opéra de Paris.
Ah oui, l'Opéra de Paris qui fête ses 350 ans. Là, Angèle n'était pas née du tout. Hein.
Non, mais vous non plus.
Ça vaut bien deux livres. Alors, le premier édité chez Gourcuff Gradnico a pour titre L'Opéra de Paris, 350 ans d'histoire. Son auteur, Mathias Auclair. Le second, chez Larousse, l'Opéra de Paris, toute une histoire, signé Jérémy Rousseau et Gérard Denisot.
Le même thème, donc l'Opéra de Paris, on peut se contenter d'un seul, peut-être des deux,
bah ou alors
il faut les deux.
Vous parliez de Noël il y a quelques minutes, Bernard, donc on va s'offrir les deux, parce que c'est moins de 30 euros pour ces deux beaux livres. Ils sont complémentaires parce qu'ils traitent d'une même histoire, mais différemment. Mathias Auclair s'attache à une découverte qui mêle thématique et chronologie, tandis que Jérémy Rousseau et Gérard Denisot accordent une large place au répertoire, aux œuvres qui ont été créées ou qui ont fait date à l'Opéra de Paris.
On imagine que les deux bouquins nous expliquent d'abord, pourquoi l'Opéra de Paris a été créé ?
Bien sûr, et Louis XIV, puisque voilà, c'est le roi Soleil qui a eu cette idée, il l'avait en tête en 1669.
Quand c'est pas Louis XIV, c'est Napoléon.
Exactement, en fait, il avait deux idées en tête, il a 31 ans. Hein. Première idée, professionnaliser les spectacles qui existaient déjà. Hein. Il y avait notamment des ballets à la cour, organisés et joués par les courtisans, hein. Voilà comment on passait le temps notamment, par le roi aussi hein, qui participait, c'était un excellent danseur. Donc, première idée, professionnaliser. Deuxième idée, assurer le rayonnement du roi, montrer sa grandeur à travers les arts. Et on sait que l'opéra, c'est la réunion de tous les arts. Donc, c'était une très bonne idée qu'a eue là Louis XIV.
Très politique.
Une idée politique. Et justement, Bernard, à propos de politique, vous découvrirez dans ces deux livres que le plafond Chagall, si vous avez été à l'Opéra Garnier, vous savez qu'à Paris, maintenant, il y a
une
deux
seule
opéras.
Fois, mais on est tellement mal assis que...
Comme vous êtes. Alors, il y a donc Garnier et Bastille. Si vous allez à Garnier, vous verrez ce plafond Chagall qui a fait scandale lors de son installation en 1964 et qui a été voulu, ce plafond, par André Malraux. Alors c'est un geste politique, je vous disais qu'on est encore dans la politique, parce que c'était pour le ministre des Affaires culturelles, au-delà de l'œuvre d'art, l'affirmation de la reprise en main de l'opéra par l'État. Et donc l'histoire de l'opéra de Paris, c'est ça. C'est 350 ans de musique, bien sûr, mais aussi 350 ans de petites et grandes histoires pas toujours artistique.
L'Opéra de Paris, toute une histoire, donc chez Larousse. Et puis l'autre, l'Opéra de Paris, 350 ans d'histoire, chez Gourcuff Gradenigo. Mes amis, passez une excellente semaine culturelle.